Le 6-9 du week-end sur France Inter.
Patricia Martin, votre invité, Stanislas Guérini, qui est délégué général de La République En Marche et député de Paris.
Bonjour Stanislas Guérini.
Bonjour à vous.
Alors le 49-3, on a tout entendu, coup de force, méthode totalitaire, aveu de faiblesse. Quand je dis méthode totalitaire, c'est parce que Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il y avait des pulsions totalitaires. Dans le JDD, on lit que Édouard Philippe a dégainé le 49-3, c'est un terme un peu guerrier. D'abord, est-ce que ça vous a surpris ?
Non, c'est avant tout un outil démocratique. On pourrait ramener un tout petit peu à la réalité des choses. J'avoue que je suis très surpris quand j'entends Jean-Luc Mélenchon tenir de tels propos de la part de ceux qui, pendant des jours, des semaines, ont au contraire piétiné la démocratie représentative, piétiné le Parlement.
En faussant le débat.
En faussant le débat, en ne permettant pas qu'il y ait un vrai débat. Et donc, le 49-3, c'est un outil démocratique, c'est le gouvernement qui engage sa responsabilité. Il y a pire en démocratie. Je crois que c'est une réponse aussi au non-débat, comme l'a dit le Premier ministre. Nous voulions un débat sur le fond. Cette réforme des retraites, elle est essentielle pour l'avenir du pays, pour la vie des Français. Il n'a pas été possible. Ce que je veux faire remarquer ici, c'est que le texte sur lequel le gouvernement engage sa responsabilité, c'est un texte qui sera enrichi justement de ce que les parlementaires ont pu apporter en matière de droits pour les femmes, pour les personnes handicapées, en matière de pénibilité, en matière de fin de carrière, et aussi enrichi de ce que la démocratie sociale a pu produire, puisqu'il y a eu un travail ces dernières semaines avec les syndicats d'employeurs, de patronat, pour pouvoir justement enrichir le texte qui est présenté au Parlement.
Donc une conviction très forte de la part du gouvernement. Mais est-ce que le fait que ça a surpris plusieurs personnes, un samedi après-midi, est-ce qu'il n'y avait pas, au moment où on s'intéresse quand même beaucoup à la propagation du coronavirus, est-ce qu'il n'y avait pas un côté un petit peu comme ça en catimini ?
Non, je ne crois pas. Comment penser que un tel acte démocratique, et d'ailleurs il y aura des motions de censure, c'est bien le jeu démocratique là aussi, elles seront examinées la semaine prochaine, donc vous voyez, tout sauf en catimini, mais je crois qu'au contraire, à un moment où le pays est préoccupé par la diffusion de ce virus, je pense que personne ne pourrait comprendre qu'on laisse l'Assemblée nationale dans un état de jachère, sans vouloir faire un lien avec la chronique précédente, démocratique, justement inutile, puisque ce débat, je crois que chacun qui a pu allumer sa télévision et regarder un tout petit peu la nature des débats à l'Assemblée nationale, voyait bien que ça n'avait rien d'un débat démocratique.
Mais une loi sans vote, c'est quand même un risque.
Mais il n'y aura pas une loi sans vote, puisque le texte sera examiné au Sénat, puis il reviendra à l'Assemblée nationale. Donc ceux qui disaient, on va faire ça en une ou deux semaines, en réalité, ce sont des mois d'examen parlementaire. Là aussi, c'est le jeu de la démocratie et c'est bien normal. Parfois, les Français nous reprochent de ne pas aller suffisamment vite pour voter les textes. La réalité, c'est que ce texte, il est en préparation depuis 2 ans. Il y a eu beaucoup de discussions avec les organisations syndicales. Il y a des discussions qui continuent d'ailleurs. Il y a une conférence de financement qui est extrêmement importante pour assurer la transition vers le nouveau système. Ça sera très important d'intégrer le fruit des discussions de cette conférence de financement, justement, dans la deuxième lecture, la lecture définitive à l'Assemblée nationale.
Mais vous parliez des 2 ans de préparation, ces 2 ans de concertation menées par Jean-Paul Delevoye. Est-ce que finalement, ça n'a pas servi à grand-chose, hein, l'impression ?
Je crois que, au contraire, ça a servi à poser des discussions pour un sujet qui est d'une complexité redoutable. Souvent, on dit, mais le nouveau système de retraite, le système de retraite universel, il sera complexe. Oui, mais regardez notre système actuel. Personne n'y comprend rien. Son système de retraite, on a déjà cotisé dans 3-4 caisses différentes. Je pense qu'il est bon de mettre en place un système justement plus simple, mais la transition de l'ancien système vers le nouveau système, forcément, c'est complexe. Et ce que nous discutons aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est en quelque sorte une loi cadre qui fixe les grands principes. Et ensuite, nous aurons d'ailleurs un temps de transition où nous devrons écrire les détails profession par profession, puisque quand on vient de 42 systèmes différents et que l'on va vers un système unique, je crois que chacun peut comprendre qu'il y a une certaine complexité à mener cette transition.
Il y a quand même le souhait que ce soit bouclé avant l'été.
Ah oui, je vous le confirme, parce qu'il y aura des grands avantages dans ce système de retraite. Des grands avantages pour ceux, par exemple, qui ont eu des carrières incomplètes. Des grands avantages pour ceux qui ont travaillé toute leur vie, mais qui ont les retraites, par exemple, pour les agriculteurs qu'on connaît, parfois 600, 700 euros. Nous voulons mettre un minimum justement de retraite à 1000 euros dans un premier temps pour ceux qui ont travaillé toute leur vie. Et ces avantages-là, nous voulons en faire bénéficier les Français dès 2022. Et donc, il est nécessaire, oui, de voter ce texte rapidement avant l'été.
Cet enlisement dont vous parlez, cette obstruction, est-ce que vous pensez que c'est un manque de maturité finalement politique ?
Je pense que la période que nous vivons montre à quel point nos démocraties sont effectivement un peu fatiguées. Et je pense qu'on ne pourra pas faire l'impasse, et je suis certain, ça sera un sujet aussi pour la prochaine élection présidentielle, on ne pourra pas faire l'impasse d'une réflexion sur notre démocratie, son efficacité, la façon de mener des concertations.
Une façon de laisser vivre un débat.
C'est bien entendu, mais quand le débat est de qualité, quand il est sur le fond, et nous n'avons jamais repoussé un débat, cette majorité, je crois qu'on peut lui faire des critiques, elle peut faire des erreurs, mais pas celle de ne pas assumer la politique qu'elle mène, pas celle de ne pas remplir les promesses que nous avions faites. Et donc nous assumons tous les débats avec beaucoup de courage au contraire. Mais oui, il y a une réflexion à mener sur l'association des citoyens, peut-être un peu plus en amont des lois. Moi je suis très intéressé, La République En Marche avait poussé pour qu'on mette cette convention citoyenne pour la transition écologique. Bien, intéressons-nous à ce type d'objet démocratique nouveau, parce que je crois qu'il faut effectivement repenser, retravailler la façon de créer beaucoup plus de consensus dans notre société. C'est un des enjeux qui est devant nous, que nous n'avons pas suffisamment encore adressé. Il y a cette volonté de rassembler le pays. Le pays aujourd'hui est divisé. Éclivé, il y en a une parfaite conscience dans la majorité et ça sera un des grands objets qui est encore devant nous.
Et est-ce que vous pensez que l'opinion va vous suivre? Est-ce que vous pensez qu'il y aura des réactions évidemment du côté des syndicats? Et puis est-ce que ça risque pas aussi d'entacher les rapports entre les parlementaires et le gouvernement?
Oui. Oh non, les parlementaires et le gouvernement, je pense qu'au contraire, le gouvernement est venu sortir un peu le Parlement de l'ornière, pour reprendre l'expression du Premier ministre, dans lequel il était ces dernières semaines. J'ai été intéressé par les réactions des organisations syndicales, celles qui souhaitent la mise en place d'un système universel depuis le début. Je lisais les interviews de la CFDT notamment. Eux, ils sont parfaitement conscients que le travail continue, le travail de concertation qui est mené dans le cadre de la conférence de financement va continuer et c'est bien normal et au contraire, nous en avons besoin. Nous avons besoin de créer des solutions consensuelles sur cet enjeu de l'équilibre financier du système et donc le travail doit continuer et ils ont bien compris que l'adoption avec un 49-3 ou une lecture plus classique, comme nous nous y engagions, ne change rien au travail qui est mené par ailleurs.
Il n'y aura pas plus de manifestations
Je crois pas. Je vois bien que nos oppositions essayent de créer à chaque fois l'incident. Vous voyez les propos de Jean-Luc Mélenchon que vous citiez. Mais nous continuons d'avancer avec détermination.
Et la possibilité qui était proposée justement par les Républicains d'une pause et de reprendre ensuite le débat une fois que les mesures de financement seraient établies. Est-ce que ça, c'était pas une éventualité
C'est une autre facette de l'enlisement que je présentais tout à l'heure. Mm-hmm. En réalité, cette réforme-là, nous voulons la mener, effectivement. Les oppositions, de droite comme de gauche, ont longtemps repoussé cette grande discussion structurelle que nous devions avoir sur notre régime de retraite. Ils proposaient de repousser une nouvelle fois. Eh bien, ce n'est pas notre philosophie. Nous voulons avancer parce que nous pensons que ce que nous faisons pour les Français est juste et nécessaire.
Est-ce que vous pensez que ça peut avoir une incidence sur les municipales à venir?
Je crois pas. Vous savez, je passe beaucoup de temps à mener campagne auprès de nos candidats ou moi-même engagé dans une campagne à Paris. Je pense que les Français font la distinction, au fond, entre ce débat sur les retraites et les enjeux municipaux. Ils se posent des questions sur leur ville. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire dans une campagne municipale. Je ne vois pas de grande porosité entre les débats.
Il n'y a aucun risque de motion de censure. Sinon,
qu'elle soit votée, je crois qu'il ne manquera pas une voix de la majorité pour donner sa confiance et soutenir le gouvernement. Donc je ne vois pas de risque, mais c'est bien normal et c'est la démocratie que les oppositions puissent présenter de telles motions.
Merci beaucoup Stanislas Guérini.
Merci à vous.
Stanislas Guérini, délégué général de La République En Marche et député de Paris, était l'invité de la rédaction de France Inter ce matin. Merci.